100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Questa vita mi ha drogato, non vado alla natura, penso solamente a lavorare perché ho paura di non aver pagato.
Bonjour à tous et à toutes. En Italie, la Calabre est l'une des régions les plus enclavées d'Europe, avec des taux de chômage supérieurs à ceux observés dans la plupart des régions de Roumanie ou de Bulgarie par exemple. La situation est particulièrement critique pour les jeunes, nombreux à quitter la région, et parmi ceux qui restent, certains sombrent dans la criminalité et la drogue. Reportage dans un centre de réinsertion pour jeunes toxicomanes à Catanzaro. Cécile Debarge.
Dans la grande salle à manger de Villa Emilia, tables et chaises ont été poussées dans un coin pour laisser l'espace aux danseurs de l'après-midi. Dès les premières notes de musique, deux jeunes femmes s'élancent, bientôt suivies par leurs camarades masculins. Tous participent à une cure de désintoxication et parmi leurs activités, cet atelier d'expression artistique. Étonnant, pensez-vous, pour des toxicomanes? Eh bien, pas tant que ça lorsque l'on sait que pour certains, la gestion des émotions est à l'origine de leur dépendance, comme l'explique ce jeune homme.
Le plus difficile pour moi, c'est qu'on ne nous accepte pas. Ou plutôt que nous, on ne se sent pas accepté, c'est différent. Bien sûr, c'est notre ressenti, nos sentiments. Et souvent, ça fait bien longtemps qu'on pense comme ça. Mais en redevenant sobre, c'est comme si on redécouvrait toutes ces sensations qu'on avait oubliées lorsqu'on était protégé par la drogue.
Pour Francesco, un magasinier en cure depuis 18 mois, l'usage de drogue répond à un problème majeur.
Quand tu ne sais pas faire face aux difficultés, quand tu ne veux pas ressentir de douleur, parce que nous, dans le fond, on ne veut pas souffrir, même pas une seule seconde, aussitôt on va se réfugier vers quelque chose qui peut nous redonner le moral.
Calabré vivant à Turin, dans le nord de l'Italie, il alterne depuis 6 ans séjour en prison et en centre de désintoxication. Malgré plusieurs tentatives, ce cocaïnomane a toujours rechuté.
Selon moi, ce n'est pas tant la dépendance qui pose problème, c'est surtout d'affronter le quotidien. C'est pour ça que je veux changer de vie. C'est déjà très dur ici. Alors je n'imagine même pas comment ce serait à Turin.
À 32 ans, Francesco est à peu près dans la moyenne d'âge des toxicomanes pris en charge par la communauté thérapeutique Villa Emilia. Une moyenne de plus en plus jeune, commente Nino Pitera, éducateur à Villa Emilia depuis 1991.
La plupart de nos patients sont dans la même classe d'âge, de plus en plus basse. Lorsque je me promène à Catanzaro, sur les places principales, je vois des adolescents, une bière à la main, dès 10h du matin. Ce n'est pas difficile ensuite de retrouver ces mêmes jeunes avec des problèmes de dépendance à l'alcool à 24 ou 25 ans. Or ça, dans le passé, c'était inconcevable.
Pour lui, le délitement des structures familiales en est l'une des raisons.
Les problèmes psychiatriques sont de plus en plus présents. Notre société n'offre plus de repères forts auxquels se raccrocher. À partir du moment où la valeur famille ou le cocon familial se désagrège, souvent les adolescents vont chercher refuge ailleurs.
Le programme vise à ramener petit à petit les patients à être autonomes. Et pour cela, l'un des points clés sera le soutien qu'ils reçoivent à l'extérieur, famille, amis ou bien un travail, explique Federico Angotti, éducateur chargé de la réinsertion. Le point le plus difficile est souvent celui de l'insertion sur le marché du travail, particulièrement en Calabre où le taux de chômage des jeunes, par exemple, est de 55,6%, l'un des plus élevés d'Europe.
C'est vrai que dans le sud, on a des difficultés supplémentaires, mais les problèmes d'emploi, on les trouve partout. Le vrai souci qu'on a ici, en plus du reste, c'est celui de la criminalité, de la mafia.
Dans la région, la mafia locale s'appelle la 'Ndrangheta, une organisation criminelle qui affecte lourdement l'économie de la région. La dottoressa Mantella est la présidente du Centre Calabrais de Solidarité, dont fait partie la communauté Villa Emilia.
Ici, on a cette fameuse 'Ndrangheta qui a construit son empire et continue de le maintenir, essentiellement avec le trafic de cocaïne. La Calabre, c'est un point d'arrivée, mais aussi un centre de trafic et de deal.
Une situation criminelle particulière qui ne fait qu'empirer les difficultés d'un territoire comme la Calabre, déjà éprouvé socialement et économiquement. Au milieu des nombreuses difficultés que doit affronter la région et de manière générale l'Italie, la toxicomanie ne suscite pas grand intérêt de la part des pouvoirs publics, explique la dottoressa Mantella.
Ce qui a changé aussi, c'est que le gouvernement et l'État prêtent beaucoup moins d'attention à la toxicomanie que par le passé. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de financement de projets sur la question.
Pourtant, selon la Société italienne de toxicomanie, depuis le 1er janvier jusqu'à la fin du mois de mars, soit 3 mois tout juste, 48 personnes sont mortes en Italie des suites d'une overdose.
Lisbonne renoue avec un passé de carte postale pour le plus grand plaisir de ses habitants. La capitale portugaise vient de remettre en service une ligne de tramway fermée depuis 24 ans sous la pression des usagers. Alors on est encore loin des 150 km de réseau qui sillonnait la ville dans les années 50. On est tombé à moins de 50 km aujourd'hui. Mais la remise en service de cette sixième ligne pourrait bien marquer le grand retour de ce mode de transport particulièrement adapté à la topographie de la ville. C'est un reportage de Marilyn Darcy.
Cette manette permet d'avancer. Ensuite, avec celle-là, je peux sortir de mon stationnement et en poussant la troisième, le tram va avancer. On a beaucoup de choses à actionner.
Tania Barbosa manipule les manettes du train 24 avec une aisance apparente qui surprend. Ici, pas de volant, pas de frein et l'obligation pour le conducteur d'anticiper arrêt et démarrage. Son tram a des allures de joujou des années 50 qui requiert une bonne dose de concentration. Tania Barbosa.
C'est plus exigeant qu'un bus. Avec un bus ou une voiture, je peux dévier s'il y a un obstacle. Le tram, il faut que je l'arrête, que je stoppe totalement. Je ne peux pas le dévier. C'est ça le vrai problème. Et puis, il faut faire attention à des tas de choses. Au fil électrique, mais aussi aux rails. Une grosse pierre sur ces rails peut suffire à faire dérailler la voiture.
Efficace avec sa capacité à grimper les collines escarpées de Lisbonne et à se faufiler dans les rues étroites, le tramway de la ligne 24 était très attendu après plus de 24 ans d'absence et il commence doucement à séduire les usagers.
C'est tout nouveau la 24. Jusqu'à présent, on connaissait surtout la ligne 28, celle qui est dans tous les guides touristiques. Mais maintenant, les gens commencent à s'habituer à la ligne 24. Ils sont vraiment très heureux de revoir le tram passer par ici à Campolide. C'est très utile, c'est vrai. Mais en plus, vous savez, les gens affectionnent particulièrement le tram. Ça faisait 24 ans qu'on n'en avait plus vu ici. Et aucun doute, hein, les habitants veulent en voir plus circuler en ville.
24 ans d'attente pour voir circuler à nouveau le tram 24 à Campolide, un quartier au nord-est du centre de Lisbonne, où se trouve le terminus de la ligne totalement réaménagée. La mobilisation de l'association de quartier a porté ses fruits et le tram vient combler un déficit de services de proximité. Fatima l'emprunte régulièrement.
Je le prends pour aller à mon travail. Et c'est bien le tram. Pour moi, c'est un moyen de transport en plus pour me déplacer, une alternative au bus qui passe par là aussi. Le tram me dépose près de mon travail et ce n'est pas bondé.
Au point de départ opposé, place de Camoens, au cœur de Lisbonne, le 24 côtoie le 28, mythique et incontournable, et vraie carte postale de Lisbonne, toujours bondée. Son petit frère, le 24, identique d'apparence, attire aussi les touristes. Lionel et Patricia sont montés dans le 24 un peu par hasard.
Le hasard, on a demandé à une personne qui parlait français, on lui demandait où prendre le tram, et nous a dit vaut mieux prendre celui-là que le numéro 22.
28.
Il est trop bondé, ouais. C'est le tram touristique apparemment. On va faire demi-tour après.
Sympa, très sympa. C'est typique alors. Hein.
La CARIS, entreprise municipale des transports publics, a restauré les voies de la ligne 24, vérifié tout le réseau électrique, aménagé les arrêts et surtout trouvé des voitures pour assurer le service. Inès Andrade, porte-parole de la CARIS.
Les trams que l'on a mis en circulation sur la nouvelle ligne 24 étaient tous en réparation. Ils ont été remis en état de fonctionnement. On a 3 voitures en circulation sur la ligne 24. D'un terminus à l'autre, c'est 20 minutes de voyage si bien sûr il n'y a pas de problème sur la voie.
La ligne 24 sera bientôt prolongée jusqu'au Tage. Des travaux sont en cours. D'autres sont prévus, car la municipalité, propriétaire du réseau de transport depuis début 2017 seulement, veut repenser la stratégie de la mobilité urbaine. Miguel Gaspard, conseiller municipal chargé des transports.
Dans les années 80 et 90, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, le Portugal a choisi de démanteler son réseau de tram pour quelque chose d'un peu plus moderne, les bus. Avec le recul, on le regrette, sans doute. Bon, enfin, c'est mon opinion. Si c'était à refaire, sans doute que l'on ne prendrait plus cette décision. L'option actuelle est diamétralement opposée. Nous développons le réseau des trams.
La mairie affiche son ambition. Elle veut prolonger les 6 lignes existantes, notamment la ligne 15, vers l'est, le long du Tage, dont le parcours plat permet le passage des trams modernes. Le développement vers l'ouest est également à l'étude, avec les municipalités environnantes. Lisbonne envisage l'achat de 30 nouvelles voitures. La fluidité est renforcée. Miguel Gaspard.
La mairie a intégré 250 fonctionnaires supplémentaires affectés à la surveillance du trafic. Désormais, la police municipale, les contrôleurs de trafic de la CARIS et les agents de la circulation collaborent étroitement. Dès que quelqu'un bloque le trafic en se stationnant sur les voies, par exemple, les interventions sont immédiates. En janvier 2018, on a établi un record de temps gagné avec ces interventions. 120 heures, soit un tram roulant 5 jours sans discontinuité. Le précédent record date de l'an 2000.
Les Electricos, ces trams tout droit venus du passé, seuls capables de partir à l'assaut des collines de Lisbonne, sont de retour. Pour le plus grand bonheur des usagers lisboètes et des touristes, bien sûr. L'extension du réseau va se poursuivre et les prolongements de lignes ouvriront en 2019 et 2020.
Mais qu'a bien pu faire l'Europe pour nous ?
Endiguer la montée des populistes europhobes aux élections européennes de mai prochain en constituant un axe progressiste. C'est la volonté du président français, d'autant que les récents sondages placent La République En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, au coude à coude avec le Rassemblement National de Marine Le Pen. Alors dans le reste de l'Europe, où le courant national populiste anti-européen a marqué des points ces derniers mois, est-ce qu'on assiste à une poussée identique des adversaires de l'Europe ? Vont-ils dominer le futur Parlement ? On voit cela avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors dans 9 mois, est-ce qu'on va voter en France pour ou contre l'Europe ?
Si l'on se base sur le dernier sondage pour 2019, on s'aperçoit que le parti de Marine Le Pen recule de 3 points par rapport aux précédentes élections de 2014 où il était arrivé en tête. Mais si l'on y ajoute les intentions de vote pour les souverainistes de Debout la France, la droite anti-européenne française devrait revenir au Parlement de Strasbourg avec un nombre équivalent d'eurodéputés. Cela dit, en ajoutant les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, qui sont franchement hostiles à l'Union sous sa forme actuelle, on doit constater que les pro-européens ne devraient envoyer guère plus de la moitié des députés français au Parlement européen. Il constituait 62% des élus en 2014.
Est-ce qu'on sait dans quel pays européen on prévoit une forte poussée populiste en 2019 ?
On peut effectivement répondre facilement à cette question dans la mesure où dans tous les pays de l'UE, les sondages politiques sont nombreux. Ils ne sont pas tous réalisés en vue des élections européennes, mais celles-ci se déroulant à la proportionnelle, ces sondages constituent un indicateur pertinent. On ne surprendra personne en indiquant que l'Italie est le pays qui bascule le plus spectaculairement en faveur du populisme, dont les deux composantes gouvernent désormais à Rome. Les nationalistes de la Ligue sont crédités de 32% des intentions de vote et les antisystèmes du mouvement 5 étoiles de 30%. Ces deux formations ont obtenu 22 eurodéputés en 2014. Ils devraient en envoyer près de 50 en 2019, soit les deux tiers de la représentation italienne.
L'Allemagne va-t-elle connaître également une poussée populiste ?
Oui, c'est vrai, mais plus limitée. L'AfD, parti anti-immigration plus eurosceptique qu'europhobe, est crédité de 15% des intentions de vote alors qu'elle n'avait réalisé que 7% il y a 4 ans. Elle devrait donc envoyer deux fois plus de députés au Parlement européen, soit une quinzaine. Ce qui signifie que les eurodéputés allemands resteront pro-européens à au moins 75%, même si l'on n'inclut pas les élus du parti de gauche Die Linke.
Alors Daniel, qu'en est-il maintenant des autres grands pays européens ?
L'Espagne, ainsi d'ailleurs que son voisin portugais, n'est toujours pas concernée cerné par le populisme de droite. Il n'en est pas de même de la Pologne, où le parti Droit et Justice qui gouverne obtient 52% des intentions de vote contre 32% en 2014. Cette formation très conservatrice et eurosceptique devrait donc envoyer 27 ou 28 eurodéputés à Strasbourg, plus de la moitié de la représentation polonaise contre 19 actuellement. La Hongrie voisine fait encore mieux, si l'on peut dire, puisque les deux tiers de ses élus appartiendront au parti nationaliste eurosceptique du Premier ministre Viktor Orban ou encore au mouvement europhobe et raciste du Jobbik. Mais dans ce cas, il n'y a guère de changement par rapport à 2014. Quant à la Slovaquie, plusieurs formations eurosceptiques ou europhobes gagnent du terrain et devraient envoyer au Parlement 3 députés supplémentaires.
Est-ce qu'on observe des changements en Europe du Nord ?
En Scandinavie, les populistes progressent en Suède, mais reculent au Danemark et en Finlande. Bilan, sans doute 7 députés populistes au total, contre 8 actuellement. Quant aux Pays-Bas, le Parti pour la liberté de Geert Wilders progresse légèrement à 15%, mais ne devrait pas obtenir plus des 4 députés actuels. Enfin, en Autriche, le très populiste FPE, actuellement au gouvernement avec les conservateurs, progresse à 25% des intentions de vote et devrait faire élire 5 députés en 2019, soit un de plus qu'en 2014.
Donc on peut vraiment parler de poussée générale des populistes en Europe ?
Indéniablement, oui. Mais l'on est loin du raz-de-marée, puisque les nationaux populistes devraient passer de 120 eurodéputés actuellement, soit 16% du total, à environ 160, soit 21%. Car n'oublions pas que la sortie du Royaume-Uni prive le courant populiste des 24 députés très europhobes de l'UKIP.
Alors dans ces conditions, Daniel, est-ce que l'appel à la mobilisation d'Emmanuel Macron a des chances d'être entendu ?
À vrai dire, assez peu. Pas de risque de majorité europhobe au Parlement, même si c'est le vrai phénomène nouveau, l'euroscepticisme soft progresse beaucoup au sein des partis conservateurs traditionnels. On le voit chez les Républicains tendance Laurent Wauquiez, à Forza Italia de Berlusconi, chez les conservateurs autrichiens et même sur toute une frange de la CDU en Allemagne, proche de la CSU bavaroise. À l'instar de ce qu'il tente dans l'Hexagone, le président français rêve de faire exploser le groupe des conservateurs européens du PPE. Il a peu de chances d'y parvenir et devra sans doute se contenter d'un groupe libéral centriste renforcé par les élus macroniens.
Merci Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt dans Accent.
À bientôt Laurent.
Qu'est-ce que le beau ? Selon les époques, la réponse n'a pas toujours été la même. Le Musée national d'archéologie d'Athènes s'est penché sur la question avec cette exposition « Les différents aspects du beau ». Expo visible jusqu'en 2019, Charlotte Stevenard est allée voir ce que les Grecs anciens considéraient comme beau visuellement, mais aussi olfactivement.
C'est un peu chargé comme odeur.
Penché au-dessus du goulot d'une grande fiole en verre, ce visiteur inspire profondément. Quelques notes sucrées apparaissent d'abord avant de laisser place à des senteurs plus capiteuses. Sur la droite, dans une vitrine, des plaquettes en pierre gravées datant de l'Antiquité révèlent la recette utilisée pour recomposer ce parfum. Un mélange de sauge, de coriandre, de rose et de cyperus, une plante aquatique. C'est l'entreprise de cosmétiques grecque Corès qui a été choisie par le Musée national de l'archéologie à Athènes pour tenter le pari réussi visiblement. On en sait donc un peu plus sur ce qui sentait bon dans l'Antiquité. Mais la beauté, c'est une question de point de vue, explique la directrice du musée Maria Lagoiani.
Ne cherchez pas la règle du beau. Le beau a différents aspects. Chacun décide de ce qui est beau pour lui-même.
Visuellement, les Grecs anciens n'hésitaient pas à en mettre plein la vue, justement. Jarres décorées avec délicatesse, ornements en or, finement ciselés, la beauté a un prix aussi. Mortel quand on sait que la poudre que les femmes appliquaient sur leur visage était hautement toxique. Enfin, les statues d'hommes, d'abord symboliques, puis d'une précision incroyable, permettent de comprendre que l'humain a une perception différente de son apparence au fil de l'histoire. Manque enfin Louis, les chercheurs du musée y travaillent, tentant de recomposer de la musique antique.
Françoise Grelot a réalisé une mise en onde de cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.